Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes tous des prophètes. Peut-être ça vous paraît évident ou pas, mais vous avez entendu dans l'Ancien Testament ce beau passage du livre des Nombres où justement Moïse veut partager ce charisme de prophétie qui lui semble si lourd. Et le Seigneur prend un peu de son esprit pour le déposer sur 70 anciens. Mais vous avez entendu l'histoire, Médad et Eldad, eux n'étaient pas convoqués et prophétisent dans le camp. Et Moïse a cette phrase extraordinaire, nous l'avons entendue, « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Magnifique prophétie. Si, effectivement, cette prophétie dans l'Ancien Testament était réservé à quelques-uns qui avaient reçu cette mission spéciale du Seigneur. Dans le cadre de la Nouvelle Alliance, nous qui sommes baptisés, nous avons reçu cet Esprit de Dieu qui nous établit chacun d'entre nous comme des prophètes pour lui, c'est-à-dire pour témoigner de notre foi, témoigner par notre vie, nos paroles, de cette grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ son Fils. Nous sommes donc tous maintenant un peuple de prophètes appelés à témoigner. Et cette grâce que le Seigneur nous fait, elle dépasse parfois les frontières visibles de l'Église, car Dieu prépare les cœurs, donne sa grâce à tant et tant de personnes. Nous le voyons dans ceux qui viennent se proposer pour recevoir le sacrement de baptême, par exemple, comment Dieu a précédé dans leur vie cet acte, comment le Seigneur déjà était présent. Sa grâce déborde les frontières visibles de l'Église et attire au Seigneur, attire à lui toutes les personnes de bonne volonté. Aussi, je vous l'ai déjà dit, je crois, c'est que la frontière de l'Église, elle passe au milieu de nos cœurs. En réalité, elle n'est pas facile à délimiter comme ça. Même ceux qui ne sont pas explicitement baptisés sont pourtant, par les mystères de la grâce et de l'amour de Dieu, appelés à entrer dans sa communion. Et nous qui sommes chrétiens, baptisés formellement chrétiens, bien nous pouvons, par certains aspects de notre vie, nous retrouver en dehors, en quelque sorte, de l'Église à cause de notre péché. Jésus, vous l'avez entendu, dit « Ne l'empêchez pas ceux qui chassent les démons en mon nom. » Il y a après cette phrase un peu terrible, « Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. » Il faut vous dire que juste avant le texte que nous avons entendu, le Seigneur donne les enfants en exemple en disant qu'il faut l'accueillir, lui Jésus, comme ses enfants qui viennent au milieu des disciples. Ça me donne l'occasion, chers frères et sœurs, de vous parler de cette terrible chose. Je le fais avec douleur, avec honte, avec tristesse, et comme vous, j'en suis profondément scandalisé. La question, vous le savez, de la pédophilie et tous les scandales qu'il y a autour et qui touchent de près notre Église et à travers quelques-uns de nos frères qui nous touchent chacun d'entre nous. C'est un véritable scandale parce que ce n'est pas seulement une déviance d'un moment, ce n'est pas seulement une faiblesse, mais ça vient toucher quelque chose de très profond. C'est une profanation, pour moi, de l'autorité. Et c'est là où c'est très grave, car ce n'est pas seulement un péché, c'est un crime, un véritable crime. Parce qu'on détruit des personnes, des enfants, qui plus tard vont avoir tant de difficultés à se reconstruire jusqu'à l'âge adulte. Et hélas, nous les prêtres parfois, tant de personnes qui viennent et qui ont été blessées dans leur enfance. Et souvent, ça a été enfoui. Et ce sont des souffrances immenses. Et cette question est vraiment une question grave, dans le sens où, comme je vous le disais, c'est une question de l'ordre du crime. C'est criminel parce qu'on détruit profondément des personnes. Il y a toute une repentance, une demande de pardon à faire. Je vous encourage d'ailleurs à lire ce que notre Saint-Père le Pape François a écrit le 20 août. Vous trouvez cette lettre, vous pouvez aller sur le site de la paroisse à la newsletter de ce jour. Vous avez vous pouvez cliquer, vous le retrouverez facilement. Et puis également ce qu'ont dit nos évêques de français à ce sujet. C'est une question grave, nous le savons, et nous devons donc faire vraiment pénitence dans ce sens-là et demander pardon au Seigneur pour qu'il y ait une vraie œuvre de conversion. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, la question c'est de se dire, mais comment se fait-il que nous en sommes arrivés là? Ça a toujours existé dans l'histoire, hélas, c'est vrai. Mais ce n'est pas une question en plus qui est propre à l'Église. Je veux dire, tous les milieux sont touchés, vous le savez, à commencer là souvent dans les familles, mais aussi dans les milieux de l'éducation, quels qu'ils soient. Mais, comme je vous le disais, c'est une profanation de l'autorité qui est d'autant plus grave et blessante et scandalisante, si je puis dire, quand c'est le clergé, puisque, en sus de l'autorité que nous avons comme morale, nous avons cette autorité qui vient de Dieu et que, consciemment ou inconsciemment, le monde, d'une certaine manière, reconnaît, même quand c'est pour nous, quand c'est pour un peu détruire l'Église, ou en tout cas la blesser. Donc, il y a là un vrai scandale, effectivement. Mais, justement, si nous réfléchissons, nous disons, d'où vient aussi tout cela? N'est-ce pas que, dans notre monde, il y a une espèce d'ambiance générale qui fait qu'il y a un dévoiement de la sexualité? Vous qui êtes de ma génération et plus âgés, c'était une question un peu taboue dont on ne parlait jamais autrefois, le jansénisme aidant d'ailleurs, et donc une chose qu'on enfouissait. Mais après la libération sexuelle, etc., du coup tout le monde en a parlé, il y a une espèce de... c'est devenu une espèce de banalité, tout est devenu possible, toutes les expériences étaient possibles. Nous le savons, dans les années 70, il suffit de relire certains articles de journaux qui trouvaient normal ce qu'aujourd'hui on trouve absolument scandaleux. D'où vient tout cela, si ce n'est que nous avons quelque part perdu le sens profond de la sexualité humaine, au sens où cette sexualité humaine, elle a été voulue par Dieu, et elle doit être l'expression, dans le don des corps, d'un don plus profond, d'un don des âmes. La sexualité humaine est belle parce que Dieu l'a faite, mais Dieu l'a faite pour cet échange, pour ce don mutuel, non pas pour cette jouissance sans contrainte comme aujourd'hui les hommes voudraient l'avoir dans notre société. N'est-ce pas parce que l'on a perdu finalement le sens de Dieu que nous ne trouvons plus le sens de l'homme, que nous ne trouvons plus le sens de la sexualité humaine qui exprime justement magnifiquement le don mutuel et l'alliance entre deux êtres. D'où l'idée évidemment pour l'Église de dire que le don des corps ne peut être légitime que dans un don plus absolu, parfait d'alliance dans le mariage. Et c'est bien là qu'est le nœud du problème, parce que je crois que toutes ces déviances, toute cette sexualité débridée où tout est possible, où on doit jouir sans contrainte, finalement vient de cette perte de sens, cette perte du fait que la sexualité est une chose très belle que Dieu a voulu, mais comme, encore une fois, l'expression magnifique du don que deux êtres se font l'un à l'autre. Voilà là où nous devons retrouver quelque chose. Et nous avons là un trésor dans tout l'enseignement du pape Saint Jean-Paul II, dans toute cette anthropologie, dans tout ce qu'il nous a enseigné sur toutes ces questions que nous devons assimiler dans l'Église, retrouver pour définitivement tourner cette page du jansénisme, mais aussi essayer de trouver un sens dans ce monde qui est perdu à ce niveau-là et qui entraîne dans les pires turpitudes et dans les choses abominables que nous voyons. Et je crois qu'il y a un enjeu fondamental pour l'éducation des jeunes, des enfants, dans ce sens-là, redécouvrir la beauté de la sexualité humaine comme don, comme expression du don de Dieu, comme expression de l'amour véritable, comme expression de l'alliance entre un homme et une femme que Dieu veut comme image de ce qu'il est lui-même, du don de lui-même, de cette alliance qu'il veut avec son peuple. Oui, frères et sœurs, c'est une question bien sûr très grave, mais aussi très importante, très fondamentale et très belle. Il nous faut prier pour que tous ensemble, nous puissions entrer dans une démarche de pénitence, de pardon, de purification. Et nous, chrétiens, et là je rejoins ce que je disais au début, parce que nous sommes prophètes par notre baptême, par notre exemple, par l'exemple de notre vie, parce que nous pourrons dire, mais aussi parce que nous pourrons essayer de nous former sur ces questions, nous pourrons alors donner une autre image de la sexualité dans ce monde, comme une image belle, positive, qui dit cet amour de Dieu, qui dit ce sens du don, qui dit ce sens de l'amour comme oblation et offrande de soi-même et non pas égoïsme fut-il à deux. Oui, frères et sœurs, demandons cette grâce, prions la Vierge Marie qu'elle nous aide en ce sens, prions tous les saints du ciel qu'ils nous aident à retrouver ce sens profond de Dieu et de l'homme. Et puis demandons cette grâce de redécouvrir cet amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Prions pour ceux qui ont été victimes et qui puissent se reconstruire. Et demandons au Seigneur une œuvre de vraie conversion dans notre Église. Pas de la conversion de l'Église qui elle est sainte, mais des membres de l'Église, parce que nous avons tous besoin de conversion pour donner ce témoignage de la beauté, de la bonté, de l'amour de Dieu, ainsi soit-il.